commencé à faire le journal presque. Antoine Maretz, on recommence par le début. C'est à vous, bonjour.
Bonjour à tous. Le Brexit, un an après, Theresa May dévoile à Bruxelles son plan de sortie. Et pendant ce temps, les Britanniques sont très divisés. Il y a ceux qui regrettent et ceux qui persistent. Gérard Collomb à Calais ce matin. Le ministre de l'Intérieur a promis un plan sur les migrants dans les 15 jours. Son but, réduire de manière drastique les délais de demande d'asile. Le gouvernement va interdire tout nouveau permis d'exploration d'hydrocarbures. C'est ce qu'a annoncé ce matin Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique veut changer pour cela très rapidement la loi sur le code minier. L'appel des proches d'Arnaud Montebourg a inventé la gauche nouvelle. Ils souhaitent peser dans la reconstruction du PS. Pour eux, c'est notamment la dérive libérale qui a conduit le parti dans la déroute. L'invité de la séquence interview du journal de midi et demi sera la députée communiste Elsa Faucillon. Nous évoquerons la division entre le PCF et les Insoumis. Midi 55, seconde partie de la grande table avec vous, Olivier Gesbert.
Mal vu, mal perçu, mal jugé, ce serait peut-être le moment de faire revenir les catholiques dans le débat public. C'est en tout cas ce pourquoi plaide Jean-Luc Marion, notre invité, philosophe et académicien, grand spécialiste de Descartes et de la théologie chrétienne. Il publie chez Grasset, Brève apologie pour un moment catholique. On le retrouve à partir de 12h55 pour évoquer ce destin catholique de la France actuelle, peut-être.
À tout à l'heure. Le Brexit, un an après, c'est l'un des thèmes abordés au sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Et selon Jean-Claude Juncker, les premières propositions avancées par Theresa May sur les droits des expatriés européens au Royaume-Uni après le Brexit, eh bien, ces premières propositions sont un premier pas. Mais le chef de la Commission européenne l'estime encore insuffisant. Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Globalement, les pairs de la première ministre britannique se montrent assez sceptique face à ces propositions.
Oui, le terme est faible, car c'était une tentative un peu désespérée que celle de Theresa May hier soir. Son idée, vous voyez, c'était de lancer une espèce de négociation bis sur le Brexit à un niveau politique, où elle pensait pouvoir marquer des points tout à fait distincts et l'espérait-elle supérieur par rapport au niveau technique, celui où lundi on avait assisté à une capitulation en règle de son ministre chargé du Brexit, David Davis, contraint, faute de ligne britannique en la matière, à accepter le calendrier et la méthodologie des pourparlers tels qu'imposés par le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier. Alors, avec un œil bien sûr sur l'opinion dans son pays, Madame May a dévoilé devant ses pairs une ébauche de projet qualifiée par la communication gouvernementale britannique d'offre très généreuse que l'on ne pouvait qu'accepter. Fin de citation. Ce projet prétendait garantir le maintien du statut des ressortissants de l'UE établi au Royaume-Uni avant le Brexit. Mais voilà, les 27 chefs d'État et de gouvernement l'ont certes écouté, mais ont refusé tout débat et lui ont chaleureusement recommandé de communiquer ses propositions directement à Michel Barnier. De même, du côté de la Commission européenne, vous le disiez, la Commission européenne qui a déjà rendu publique ses propositions dans ce domaine, on juge ce matin les idées de Madame May imprécises et insuffisantes. Un succès total, donc.
Et donc, la concrétisation du Brexit, un an après le référendum, apparaît toujours très complexe. Aujourd'hui encore, on cherche une issue.
Oui, et plus on se rapproche de l'échéance du 29 mars 2019, date du Brexit, plus on constate qu'une année a été perdue depuis le référendum britannique et que 2 mois se sont évaporés depuis le déclenchement par Londres de la procédure dite de l'article 50, tout cela en raison de l'incapacité de la classe politique outre-Manche à concevoir l'ensemble des aspects pratiques du divorce auto-imposé d'avec l'UE et à s'unir sur une ligne de négociation claire et définitive. Les options, en effet, ne sont guère nombreuses, et elles ont en commun d'être juridiquement et ou politiquement infaisables, qu'il s'agisse de l'accès du grand marché unique de l'Union européenne ou de la qualité de membre de l'Union douanière que Londres voudrait malgré tout conserver.
Merci à vous, Quentin Dickinson. Theresa May qui dévoile à Bruxelles son plan pour le Brexit. Et pendant ce temps, les Britanniques sont très divisés un an après. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Londres, et ici, il y a ceux qui regrettent et ceux qui persistent.
Absolument. Il y a quelques semaines encore, pourtant, tout était clair. Theresa May annonçait la sortie du marché unique, voulait prendre ses distances avec la Cour de justice européenne et conclure de nouveaux accords commerciaux. La priorité, disait-elle, c'était le contrôle des frontières et de l'immigration. Mais avec la mauvaise performance des conservateurs aux législatives, la Première ministre a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée et sa crédibilité, laissant ressurgir au sein de la majorité un autre courant porté par Philippe Hammond, le ministre des Finances, qui est soutenu par les hommes d'affaires et par la City. Ils plaident pour un Brexit plus doux. Ils veulent conserver un accès le plus large possible au marché européen en limitant les droits de douane. Et ces divisions, au moment où commencent les négociations avec les pays de l'Union, ne peuvent qu'affaiblir le Royaume-Uni. Déjà, David Davis, le très eurosceptique ministre du Brexit, avait effectivement été obligé de lâcher du lest la semaine dernière face à Bruxelles en acceptant de discuter d'abord de la facture que va devoir payer le Royaume-Uni avant d'évoquer d'éventuels futurs accords. Alors que peut-il se passer maintenant? Trois solutions. Premier scénario, les Britanniques se fâchent et ne trouvent aucun accord d'ici mars 2019 avec Bruxelles. Ils signent juste les papiers du divorce. Dans ce cas, tout est à reconstruire. Le pays sera soumis aux règles mondiales du commerce. Les conducteurs de camions n'auront plus le droit de conduire en Europe. Il faudra revoir toutes les régulations aériennes et nucléaires. Deuxième possibilité, un accord douanier sur les tarifs. L'industrie automobile applaudirait, mais le secteur des services serait perdant. Et puis la troisième possibilité, ce serait un accord de libre-échange proche du marché unique. Ça nécessiterait tout de même que les frontières restent ouvertes. Tous les chefs d'État de l'Union l'ont répété cette année. Il n'y aura pas de libre circulation des biens s'il n'y a pas de libre circulation des personnes.
Merci à vous Antoine Gignoux, en direct de Londres, et de l'autre côté de la Manche, il y a Calais. Et malgré le démantèlement du camp, des migrants continuent à errer aux abords de la ville dans des conditions précaires. Ils tentent toujours de monter dans des camions pour rejoindre la Grande-Bretagne. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Calais ce matin. Gérard Collomb a promis un plan sur les migrants dans les 15 jours. Son but, réduire de manière drastique les délais de demande d'asile. Les procédures font que, selon lui, les gens ici restent 18 mois, 2 ans et ensuite ils n'en repartent plus, ce qui crée toujours, selon Gérard Collomb, une embolisation de l'ensemble des dispositifs. Gérard Collomb qui a également envoyé des signaux de fermeté à la population. Sur place, le récit de Mathieu Darrier de France Bleu Nord.
Du très classique pour Gérard Collomb ce matin, d'abord une visite du port et des installations de contrôle des camions où de gros investissements ont été effectués ces dernières années avec des financements britanniques, puis une rencontre avec les acteurs économiques et les forces de police auxquels il annonce des renforts, deux compagnies de CRS et gendarmes mobiles en plus, soit 140 hommes supplémentaires. Il y en a déjà plus de 400 à Calais. Gérard Collomb propose également de débloquer 5 millions d'euros pour étendre la zone éclairée sur l'autoroute A16, notamment dans le secteur où un conducteur polonais est mort mardi matin sur un barrage. Mais il a fallu près de 18 mois pour qu'une première phase d'éclairage soit opérationnelle près du tunnel sous la Manche. Enfin, le ministre de l'Intérieur refuse d'accéder à la demande des associations humanitaires et du défenseur des droits sur l'ouverture d'un centre d'accueil d'urgence à Calais pour garantir un accès à l'eau, à la nourriture, aux soins et aux droits d'asile. C'est peut-être la justice qui tranchera cette question lundi suite au référé des associations.
L'invitée de ce journal est Elsa Faucillon. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes députée communiste. Quelle est la solution pour Calais? On a l'impression que aucune solution n'est viable en ce moment.
Bah, écoutez, en tout cas, en réaction au plan migrant qui est annoncé sous 15 jours, je crois qu'effectivement, de manière indéniable, il y a besoin de réduire les délais d'attente, parce que pas simplement du point de vue de l'embolisation dont il parle, mais il y a besoin d'une réponse rapide, de ne pas les laisser attendre. Et surtout, je crois, j'entendais la réaction des associations sur place, je crois qu'il y a besoin de travailler à un accueil digne, humain, et permettre ça, y compris dans le délai d'attente. Et aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas.
Et Gérard Collomb s'engage aussi vers plus de fermeté, avec les forces de l'ordre notamment.
Oui, mais justement, quand je parle d'accueil digne et humain, je ne crois pas que ce soit la solution proposée par Gérard Collomb. On voit la situation, et puis je crois aussi que la France pourrait jouer un rôle et une contribution un peu plus importante dans l'accueil des migrants en Europe.
Merci Elsa Faucillon, on vous retrouve dans la séquence interview de ce journal. Une audience décisive à Poitiers, le tribunal de commerce examine l'avenir de GMS Industries, l'équipementier menacé de liquidation. 277 emplois sont en jeu. Les salariés espèrent un nouveau sursis. Ils sont partagés entre espoir et lassitude. Guillaume Gaven.
Chez les salariés de GMS rassemblés en masse devant le palais de justice de Poitiers, on attend une fois de plus, un peu usé, un peu désabusé aussi, à l'image de Gilbert.
C'est la quatrième fois qu'on vient sur la place de Poitiers, là, accompagner nos collègues au tribunal. Là. Beaucoup fatigué, le moral, on va dire, dans les chaussettes. Ça, c'est épuisant. En plus, la chaleur, tout rentre en compte. Et
c'est long, hein, quand même. Hein,
c'est
comme,
très, très long. Ouais. Ouais, oui. Depuis le 3 décembre, quand on est là, on nous a promenés, on nous a baladés, on nous a menés en bateau. On a quand même fait bouger François Hollande, on l'a interpellé à Brive, on a interpellé Macron, tous ces politiques-là. Et aujourd'hui, on voit qu'ils ont fait un peu pour leur campagne et nous, ben, on va être en cas de le dire, un peu le dindon de la farce.
Car la menace ultime, c'est bien la liquidation judiciaire pour GMS que le tribunal de commerce de Poitiers pourrait prononcer. Une hypothèse à laquelle ne veulent pas croire les salariés rassemblés ici. Eux demandent toujours un nouveau délai et Bercy partage leur position. On ne souhaite pas que GMS ferme, dit-on dans l'entourage du ministre de l'économie. On espère que l'offre de GMD sera étudiée avec bienveillance et que le tribunal accordera un délai supplémentaire. GMD, vous le disiez, c'est le seul repreneur sur les rangs. Pas d'offre ferme déposée, tout juste une lettre d'intention qui prévoit de reprendre 110 à 120 salariés sur les 277 actuellement.
Merci Guillaume Gaven, notre envoyé spécial à Poitiers. Le gouvernement va interdire tout nouveau permis d'exploration d'hydrocarbures. C'est ce qu'a annoncé ce matin Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique veut changer pour cela très rapidement le code minier. Ce blocage de l'exploration d'hydrocarbures sera un élément phare d'un vaste plan que Nicolas Hulot présentera en juillet et qu'il compte voir adopter d'ici l'automne.
Il y a un certain nombre de permis qui ont été autorisés. Il y a ce qu'on appelle des droits acquis. Si je reviens dessus brutalement, on aura évidemment des contentieux des astreintes excessivement lourdes. Croyez-moi, le budget de la France n'en a pas besoin.
De nouveaux permis.
Alors, pour qu'il n'y ait pas de nouveaux permis, on doit changer par la loi. On va le faire dans un délai très court. On va la préparer cet été et on la fera voter à l'automne. Pour faire en sorte que nous ayons les latitudes que nous n'avons pas dans le code minier actuel pour pouvoir dorénavant interdire toute nouvelle exploration d'hydrocarbures sur les territoires métropolitains et nos territoires d'outre-mer. Je suis en train de vous dire qu'il n'y aura aucun permis d'exploration, parce qu'un permis d'exploration, c'est pas tacitement, c'est que juridiquement, il y a un droit de suite, et après, il y a un permis d'exploitation. Mais juste pour que chacun comprenne, il y a en métropole et dans certains territoires des droits qui ont déjà été donnés. On va quand même essayer de négocier, bien entendu. Mais nous avons évidemment une forme de contrainte juridique. Et je dis ça parce que dans beaucoup de sujets, moi j'arrive à un moment très précis où je reçois en héritage des décisions qui ont été déjà juridiquement verrouillées.
Nicolas Hulot au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC Info. Il juge la loi antiterroriste déséquilibrée. Jacques Toubon y voit le ferment de la dissolution de la cohésion nationale. Ce projet de loi a été présenté hier par Gérard Collomb au Conseil des ministres. Et pour le défenseur des droits, ce texte est déséquilibré entre la sécurité et la liberté, Nathanaël Charbonnier.
Oui, il y a une véritable pilule empoisonnée dans le texte que compte faire voter le gouvernement. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, se veut très critique sur ce projet de loi. Il y voit même, je cite, un véritable ferment de dissolution de la cohésion nationale. Alors, pourquoi une telle virulence dans ses propos? Pour comprendre, il faut regarder les mesures qui encadrent les assignations à résidence et les perquisitions administratives. Le ministre de l'Intérieur souhaite redéfinir ces deux points. Pour l'assignation à résidence, il souhaite la remplacer par une obligation de ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique défini, de la taille minimum d'une commune. Et ce serait plus le juge qui déciderait de cette assignation, mais directement le ministère de l'Intérieur via le préfet, comme c'est le cas depuis le début de l'état d'urgence. Concernant les perquisitions administratives, on garderait de l'état d'urgence le droit pour le préfet d'ordonner les perquisitions après accord systématique d'un juge. D'une façon plus générale, le défenseur estime que ces mesures visent uniquement une catégorie de Français, et pour parler simplement la communauté musulmane, Jacques Toubon souligne que notre pays puise sa force de sa diversité, or pointer du doigt une partie de la population, cela peut s'avérer très dangereux, et c'est aussi aller sur le terrain de ceux qui veulent dissoudre l'islam dans la République, ce que Jacques Toubon appelle les barbares.
Merci à vous, Nathanaël Charbonnier. L'appel des proches d'Arnaud Montebourg a inventé la gauche nouvelle. Ils souhaitent peser dans la reconstruction du PS. Pour eux, c'est notamment la dérive libérale qui a conduit le parti dans la déroute. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Cet appel signé par près de 700 personnes intervient à la veille du Conseil national du Parti socialiste.
Oui, c'est une manière de s'inviter dans le débat à la veille de ce Conseil national où le parti devra répondre à la question voter ou non la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe. C'est un appel à une clarification à gauche dont le premier acte texte doit être de s'opposer à ce gouvernement qui est clairement à droite, selon Yann Gallu, l'ex-député frondeur battu aux législatives, qui est à la manœuvre, avec notamment François Calfon, l'ancien porte-parole du candidat à la primaire socialiste. Dans cet appel, il fustige le tournant libéral du parti, mais aussi la démagogie, l'outrance, les guerres entre les égaux et l'incapacité à proposer une nouvelle vision du monde. C'est ce qu'on peut lire sur le site internet « Inventons la gauche nouvelle » lancée aujourd'hui. Arnaud Montebourg n'est pas directement à l'initiative de cet appel, précise ses proches, et qui souhaite en parallèle relancer le projet France, le micro-parti que l'ancien ministre avait créé en 2016. Ses proches assurent que l'ancien ministre serait passé à autre chose, mais qu'il souhaite que ses idées vivent, préférant donc rester à l'écart sans se laisser oublier pour autant. C'est donc le troisième appel pour une reconstruction de la gauche lancée après Dès Demain, porté par Christiane Taubira, Anne Hidalgo et Martine Aubry notamment, et le futur mouvement de Benoît Hamon qui sera lancé officiellement samedi prochain sur la pelouse de Reuilly au Bois de Vincennes.
Mais il n'y a pas que le PS qui est divisé, la gauche de la gauche a également bien du mal à s'entendre. Il va donc y avoir deux groupes distincts à l'Assemblée nationale, un PCF et une France insoumise, le PCF qui entame aujourd'hui son Conseil national.
Oui, avec une ambition déjà énoncée par Pierre Laurent, transformer le parti en profondeur. Le PCF doit trouver un nouveau moyen d'exister, faire évoluer son image face au renouveau à gauche incarné par la France insoumise. Le secrétaire national du Parti communiste est rassuré d'avoir sauvé les meubles aux législatives avec l'élection de 11 députés sous l'étiquette PCF, mais l'année très complexe a laissé des traces, conséquence des désaccords stratégiques en interne sur le soutien à Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle et les tensions et le divorce enfin lors des élections législatives avec la France insoumise. Plusieurs cadres encouragent la direction à faire vite, à éviter de passer des mois dans un conclave en laissant le terrain de l'opposition de gauche à la France insoumise. Signe d'ouverture hier, André Chassaigne, président du groupe PCF dans l'hémicycle, a discuté avec une délégation des députés du groupe de Jean-Luc Mélenchon pour établir un comité de liaison entre les deux groupes à l'Assemblée afin d'unir leurs forces. Après des mois de division, c'est un premier pas.
Merci Sophie Delpont. Et justement, l'invité de la séquence interview est la députée communiste Elsa Faucillon. Donc deux groupes communistes insoumis à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est bien raisonnable ?
Bien, moi, j'avais fait effectivement valoir la volonté, en tout cas, de chercher par tous les moyens à avoir un groupe commun pour faire force commune, parce que je crois que face à la majorité écrasante d'Emmanuel Macron, il va y avoir besoin effectivement de se montrer unis et en force. Bon, aujourd'hui, il semble acté effectivement qu'il y ait deux groupes. Moi, je suis dans le groupe évidemment communiste, dans le groupe GDR, mais je crois que c'est effectivement une bonne nouvelle qu'on arrive à avoir ce qui s'appellera un comité de liaison, un intergroupe. En fait, surtout un espace commun, pérenne, d'échange, d'initiatives communes. Je pense que c'est essentiel. Vous le disiez, il y a effectivement des traces laissées par les législatives, hein, essentiellement. Donc moi, je fais le pari de l'optimisme et surtout de la volonté, parce que je crois que nous aurons fort à faire et que les liens qui vont nous unir face à ces politiques libérales particulièrement violentes, elles s'annoncent comme telles, eh bien finiront par gommer ces traces de division et j'ai bon espoir et en tout cas j'y mettrai de l'énergie à ce que nous fassions de mieux en mieux force commune.
Sophie Delpont.
Oui, donc Elsa Faucillon, bonjour.
Bonjour.
Donc vous avez 35 ans, vous êtes jeune élue, hein, députée pour la première fois. Le renouveau du Parti communiste, pour vous, comment le faire exister ?
Alors, le renouveau, parce que souvent on m'interroge... Alors que j'ai 35 ans, ça fait maintenant 10 ans, hein, un peu plus de 10 ans que je suis une militante, que je suis aussi une dirigeante du Parti communiste. Bien sûr que ça passe par du renouvellement, à n'en pas douter, dans les directions, mais aussi chez les élus et à l'Assemblée nationale. C'est important d'incarner ce renouvellement, mais ça passe aussi par un renouvellement de la contribution communiste dans la société. Et aujourd'hui, je crois qu'elle a besoin d'être pensée, repensée. Et je suis plutôt d'avis à ce qu'on le fasse de manière... rapide, en tout cas dans des temps assez courts, car je crois que c'est urgent. On voit quand même que, à la fois, surtout à travers des élections législatives, à la fois, moi j'aime pas l'expression sauver les meubles, 11 députés, c'est une bonne chose, à la fois c'est un score très bas pour le Parti communiste aux législatives. Et puis, même si on a eu une très belle présidentielle avec un très très beau score de Jean-Luc Mélenchon, qui permet de de donner espoir et de montrer que dans le peuple français, il y a de la volonté de changement profond et de changement de rupture. On voit aussi au travers des législatives et bien que la gauche fait un score historiquement bas. Et donc, il y a besoin aujourd'hui de penser quelle sera la gauche de demain et qu'elle porte espoir. Et surtout, qu'elle se donne comme priorité la mobilisation des classes populaires.
Avec l'émergence de tous ces mouvements socialistes pour refonder la gauche, est-ce qu'il n'y a pas encore un risque d'émiettement? Qu'en pensez-vous? Ou est-ce que le Parti communiste doit aussi participer à cette réflexion-là avec certains socialistes?
Alors, indéniablement, le Parti communiste réfléchit et doit réfléchir à la gauche de demain. Après, moi, plus que le risque d'émiettement des initiatives faites par Arnaud Montebourg, par Benoît Hamon, par Anne Hidalgo, Martine Aubry, j'ai surtout le sentiment aujourd'hui que les initiatives des dirigeants socialistes sont plus un débat de pré-congrès et donc de textes et de motions, plus qu'un appel large à un rassemblement et à l'ouverture de grandes tables de discussion sur quel projet, autour de quel projet cette gauche peut se recomposer et s'unir.
Comment comptez-vous mener l'offensive dans l'hémicycle dans les prochaines semaines là? Parce que être dans l'opposition en plein été, ça va être compliqué.
Ah ben oui, surtout qu'effectivement c'est pas du détail ce qui va passer cet été, donc à la fois sur la question du travail et du démantèlement plutôt du code du travail, sur l'état d'urgence, sur la moralisation de la vie publique, qui a quand même des très très gros dossiers qui s'annoncent. Alors forcément, en tant que député communiste, bien sûr un rôle de résistance tenace, mais aussi d'interpellation, de mobilisation. Je crois qu'il va y avoir effectivement besoin. Moi, je suis pour que chaque député qui le peut, avec d'autres, organise partout des débats publics pour informer les salariés, les chômeurs, les retraités, rencontrer les organisations syndicales, parce que je me souviens quand même d'une très belle mobilisation l'an dernier contre la loi travail. Celle qui s'annonce, c'est la loi travail 2. Très amplifié, tout ce que Myriam El Khomri n'a pas réussi à passer est remis sur le tapis avec des aggravations fortes. Donc il va y avoir un rôle important d'interpellation et de mobilisation.
Est-ce que vous avez des regrets sur cette campagne, des législatives notamment ?
Alors bah déjà à titre personnel, je peux dire avec tous les militantes, les militants qui se sont engagés qu'on a quand même mené une très belle campagne en tentant en permanence de faire vivre la démocratie et de faire vivre la politique quand elle peut être belle, quoi. C'est-à-dire aller en porte-à-porte, on a fait à peu près... Je sais pas, je crois qu'on a frappé à 22 000 portes dans la circonscription pour aller discuter avec des gens. Donc moi, je suis très fière de ça parce que je crois que c'est comme ça aussi qu'on arrivera à construire la suite.
Merci beaucoup Elsa Fossillon. Merci également à Sophie Delpont.
Merci.
Midi 53 sur France Culture. Dans l'actualité internationale, la Corée du Nord accuse Washington d'être à l'origine d'une campagne de diffamation après la mort d'Otto Warmbier. L'étudiant américain rapatrié dans le coma est décédé après 18 mois dans les prisons nord-coréennes. Donald Trump a dénoncé un régime brutal, ce qui provoque donc la colère de Pyongyang, Nadine Epstein.
Et les circonstances exactes de la mort d'Otto Warmbier sont troubles. Après son retour aux États-Unis le 13 juin, la famille a dénoncé les mauvais traitements atroces et barbares subis par le jeune homme. Il souffrait de graves lésions neurologiques, ont précisé les médecins. Le régime coréen, lui, s'est dédouané de toute responsabilité. Il a parlé de traces de botulisme, maladie paralytique trouvée dans l'organisme du jeune homme, ce que contestent les médecins américains qui affirment n'avoir rien trouvé de tel dans les analyses qu'ils ont faites. Mais en revanche, ils estiment qu'Otto a été violemment battu en prison, ce qui aurait entraîné son coma. Après l'annonce du décès d'Otto Warmbier, le 13 juin, vous l'avez dit, le président américain a qualifié la Corée du Nord de régime brutal. Le jeune homme, en visite organisée en Corée du Nord en mars 2016, avait été arrêté et condamné à 15 ans de travaux forcés pour avoir volé une affiche de propagande. Lors d'une conférence de presse, le régime nord-coréen avait présenté l'étudiant en pleurs qui disait, ouvrez les guillemets, « j'ai commis la pire erreur de ma vie ». Le jeune américain est mort, victime des tensions politiques entre son pays et Pyongyang. Le régime communiste qui entend développer sa puissance militaire grâce à l'armement nucléaire procède à de nombreux tirs de missiles depuis le début de de l'année et les civils étrangers deviennent des monnaies d'échange diplomatique avec les USA. Actuellement, la Corée du Nord détient encore 3 ressortissants américains, 2 enseignants d'université et un pasteur.
Merci Nadine Epstein. L'épidémie de choléra au Yémen pourrait atteindre le seuil des 300 000 cas la fin août. C'est ce qu'affirme le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il y a actuellement 193 000 cas. L'épidémie a déjà fait 1265 morts, dont un quart étaient des enfants. Seul le sud-est du pays subira encore la canicule. Aujourd'hui, ailleurs, les températures seront estivales. 18 au Havre, 27 à Paris, 31 à Perpignan, 35 à Nîmes. C'est la fin de cette édition préparée avec Yacine Bouzard. Prochain journal à 18h. Il vous sera présenté par Anne Fauquemberg.